Ça,
c'est jazz. Bebop,
free jazz,
jazz rock,
big band,
hard bop,
ethno jazz,
swing,
jazz manouche,
jazz fusion,
bossa nova,
cool jazz,
jazz vocal,
ça c'est jazz,
ça c'est jazz.
Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Ça c'est jazz. Salut Bruno.
Salut Nico.
Eh bien, on continue notre aventure à propos de John Coltrane.
Et oui, on va même terminer l'année avec ça, puisque c'est la dernière émission de l'année scolaire.
Ouais.
On sera là à la rentrée, on va remettre ça.
J'espère bien, ouais.
À moins que Phil craque complètement et qu'il ne supporte plus Coltrane et qu'il nous jette dehors avant la fin de
l'émission. Non, mais à la rentrée, on passera à notre musicien Coltrane. Là, c'est la trilogie, quoi, la trilogie Coltrane. Et donc, on termine avec la dernière période de sa carrière et qui correspond à la dernière période de sa vie également.
Et bah ouais, parce qu'en fait, jusqu'à présent, on essaie d'être un petit peu didactique. On ne va pas vous faire peur avec John Coltrane. Le but, c'est de vous faire une porte d'entrée quand même. On a vu sur les premières émissions la période, on va dire... plus classique de Coltrane, hein, où il joue bop un peu, il sort tout ça justement.
On a écouté quelques morceaux où il est sideman aussi.
Ouais, aussi. Ses premiers albums où il est leader, la période chez Miles. On a fini la mission dernière
sur Crescent.
Sur Crescent, qui est en 61, si je ne me trompe pas, Crescent.
J'ai pas les dates sur les jeux.
Je crois que c'est ça. C'est l'époque où il rentre chez Impulse.
Ouais,
où il va rester jusqu'à la fin de sa carrière, c'est-à-dire pas si longtemps que ça, hein, puisque sa carrière est très courte.
Oui, c'est vrai.
En fait.
Et là, on va parler en fait de 3 ans, de 1964 à 1967, qui est l'année de son décès.
Ouais, 3 années denses, encore.
Ouais, super denses. Et on va commencer tout de suite par ce qui est considéré comme un chef-d'œuvre de l'histoire du jazz, comme de l'histoire de la musique, à savoir A Love Supreme.
Ouais, Love Supreme, c'est quand même le grand tournant du jazz, mais même, j'ai envie de dire, de la musique, quoi. C'est quand même reconnu par tout le monde. C'est un album mystique,
hein, ouais, quand même. Ouais, tout à fait, ouais. C'est un album qui s'intitule Love Supreme, un amour suprême. Et l'amour dont il est question, c'est un amour universel, mais qu'il trouve, lui aussi, pas dans une religion précise, mais en tout cas, il s'adresse directement à Dieu, si on peut dire, à travers cet album. Oui,
tout à fait. C'est une époque où il fait de la méditation, il a découvert, il adore Ravi Shankar, il lit beaucoup de livres sur la spiritualité, notamment Youssef Latif, lui donne, le grand saxophoniste, lui donne pas mal de bouquins et à manger là-dessus. Quoi. Enfin bon, c'est quelqu'un quand même, ouais, la spiritualité prend une grosse part de son quotidien. Ça, le saxophone, je crois que c'est...
Ah ouais, et lui-même a dit à plusieurs reprises qu'un de ses objectifs, lorsque clairement il revendique cette spiritualité à travers sa musique, c'est aussi de faire passer une idée de fraternité par la musique jazz, de manière à ce que les auditeurs la ressentent, et lui, il insiste vraiment sur cette idée de fraternité, quoi.
Ouais, moi j'insiste, on l'a déjà dit autrefois, mais moi je pense que c'est quand même, au fond, c'est un humaniste.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
C'est vraiment tout à fait, un grand humaniste, quoi.
Bon.
Le mieux, c'est qu'on l'écoute, un autre problème. Ouais, moi je tiens juste à dire un petit mot sur cet album, c'est comme ça que je suis tombé amoureux du jazz.
Et bah, figure-toi que moi, avec A Kind of Blue de Miles Davis, c'est aussi ça fait partie des deux albums qui m'ont ouvert les portes d'entrée à l'univers du jazz, mais vraiment. Et Love Supreme, pareil, ça en fait partie. Et je pense que si je devais faire écouter du jazz à des personnes qui sont novices en la matière et qui cherchent à découvrir, A Love Supreme, c'est clair, c'est the référence, quoi.
Ouais, tout à fait, parce que en fait, on l'écoute avec les tripes. Vous allez voir, c'est un album là, vous allez l'entendre comme ça, mais moi, je vous encourage à le trouver, à l'écouter réellement, bien prendre le temps. C'est un album où il y a une émotion énorme, énorme. Il a un son, pour moi, c'est la révélation du son du sax de John Coltrane. Il a un son qui est majestueux, c'est énorme. Ben, je crois qu'on peut se l'écouter.
Ouais, rien à rajouter, parti.
C'est parti.
Thank you.
C'était John Coltrane, A Love Supreme. Évidemment, on ne vous en a passé qu'un extrait, puisque c'est un morceau qui est composé de 4 mouvements qui sont relativement longs, entre 7 et 10 minutes chacun. Donc là, on a écouté le premier mouvement qui s'appelle Acknowledgement, qui signifie reconnaissance en anglais, et le début du deuxième mouvement qui s'intitule Resolution. Voilà.
Alors, évidemment, il y a avec son fameux quartet, hein, Jimmy Garrison à la contrebasse, Elvin Jones, le grand Elvin Jones à la batterie, et McCoy Tyner au piano.
Le grand McCoy Tyner le grand au piano.
On peut se dire que McCoy a une discographie hors Coltrane qui est absolument gigantesque. En tant que leader et en tant que sideman.
Ouais, Elvin Jones, pareil, c'est juste le bassiste Jimmy Garrison, qui pourtant est un excellent bassiste, mais qui n'a pas une discographie si énorme que ça.
Pas si énorme que ça, il a fait la grosse partie de sa carrière avec Coltrane.
Ouais, c'est ça.
Après avec d'autres musiciens, mais par contre, je crois qu'il n'a rien comme leader.
Non, mais par contre, en comparaison d'Elvin Jones et McCoy Tyner, qui ont lâché, entre guillemets, Coltrane à la fin de sa carrière, parce qu'il partait vers une dimension plus free qui ne leur convenait pas, Jimmy Garrison, lui, l'a suivi jusqu'au bout. Ça, c'est aussi assez intéressant de voir qu'il est resté fidèle à la musique de Coltrane, quelles que soient ses orientations.
Ouais, tout à fait, on a l'impression qu'il a vraiment suivi son esprit, c'est-à-dire qu'il est passé d'un jazz plus classique du début des années, que vous avez entendu dans les émissions précédentes, à quelque chose de beaucoup plus libre, qu'on va voir dans les morceaux qui vont arriver bientôt.
Ouais. Ouais, ouais. Et donc après Love Supreme, on va parler de ce que Coltrane a créé et produit par la suite. On va passer à l'album Ascension, qui a été enregistré en juin 65, mais qui est sorti en février 66. Et ça correspond à une période de sa carrière où il s'entoure de jeunes musiciens qui, eux, sont clairement des musiciens de free jazz, comme Archie Shepp ou Pharoah Sanders, pour ne citer que. Et il décide d'emmener un petit peu tout ce monde-là en studio, à savoir ces musiciens attitrés Jimmy Garrison, Elvin Jones, McCoy Tyner, et toute une foule de nouveaux musiciens, pas mal de saxophonistes, donc voilà, je l'ai dit, Archie Shepp, Pharoah Sanders. Et il décide d'enregistrer les 2 pistes de l'album Ascension, qui sont les mêmes pistes sur la face A et sur la face B, enregistrées 2 fois, qui sont des pistes qui durent quoi, 30-40 minutes.
Quelque chose comme ça. Ouais.
Voilà, 30-40 minutes, on rentre en studio, on est une dizaine de musiciens devant les micros, et c'est parti, le canevas musical est assez basique, et hop, on se lâche, on joue, et on enregistre, on voit ce que ça donne, et voilà, c'est brut de décoffrage, et c'est comme ça a été voulu comme ça.
Ouais, c'est un album quand même qui fait référence un peu sur le milieu free jazz, hein. C'est quand même un album... super important, qui a secoué pas mal le public à l'époque. Hein. Pour ce qui est de sa vie privée,
qui est toujours considéré, comme tu dis, comme une pierre angulaire du free jazz. Hein. Même si le free a été porté par d'autres musiciens, notamment Ornette Coleman, etc. Mais c'est vrai que Coltrane a sa place pleinement dans ce mouvement.
Ouais, l'album free jazz d'Ornette est sorti quelques années avant, hein. Quand même, parce que là, on est en 66, hein, et je crois que free jazz 64, je crois, ou 62,
ouais,
je sais plus.
Ouais, c'est dans ces eaux-là, hein, de toute façon. Hein.
En tout cas, à cette époque-là, Coltrane, eh ben, en fait, il a divorcé de sa première femme, hein, Naïma.
Ouais, tout à fait.
Qui a un thème qu'il a écrit, qui s'appelle Naïma, qui est magnifique.
Ouais, tout à fait.
Et il se remarie avec une pianiste qui s'appelle Alice MacLeod.
Ouais, qui deviendra Alice Coltrane.
Qui deviendra Alice Coltrane. Il aura 3 enfants avec Alice MacLeod, qui deviendra la pianiste de sa formation future lorsque McCoy décidera de le quitter.
C'est vrai, qui jouera avec lui jusqu'à la fin de sa vie à lui, et qui après son décès, en fait, tiendra à produire des albums à partir des enregistrements que Coltrane avait fait avant sa mort.
Ouais, et elle continuera même à jouer avec une formation, elle aussi, avec Pharoah Sanders et des gens comme ça. Il y a un moment très dur dans sa vie,
Rachid
là,
Ali
c'est
aussi,
qu'il perd... Rachid Ali aussi, effectivement, il reste très proche. Il y a un moment donné où pour lui c'est très dur, il perd un ami extrêmement proche qu'on peut noter, c'est Eric Dolphy. Mmh. Eric Dolphy, c'est vraiment quelqu'un de très très proche de John Coltrane. Eric Dolphy meurt et la mère d'Eric Dolphy fait cadeau à John Coltrane la clarinette basse. C'est comme ça qu'il va en jouer un petit peu de temps en temps, pas beaucoup, mais c'était vraiment quelque chose pour lui de super important. C'est vraiment deux personnages, je pense, très proches et qui poussaient une idée commune, en fait. On va enchaîner avec Ascension, donc. Mmh. avec le quartet donc habituel de John Coltrane qu'on a cité tout à l'heure, et en plus Archie Shepp, Pharoah Sanders. Donc en plus, il rajoute deux ténors chez Pharoah Sanders, deux altos et deux trompettes. Donc il y a un bassiste en plus, Art Davis. Donc c'est vraiment un album où il y a beaucoup de monde. Là, ça dégage pas mal.
Ah ouais, ça dégage bien, ouais.
Vous pouvez vous accrocher un peu au fauteuil, là.
Phil aussi, accroche-toi bien.
Ouais.
Allez, c'est parti, Ascension. Chers auditrices et auditeurs de Radio Saint-Taf, vous êtes à l'écoute de Ça c'est Jazz, je pense que vous vous en doutez.
Et oui, et c'est John Coltrane, Ascension.
Voilà, donc c'est sa période free, hein, comme vous avez pu l'observer.
Vous comprenez que ça a marqué le free, hein, vous avez vu, c'est pas un super standard. Hein.
Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas si n'importe quoi que ça. Voilà.
Non, c'est pas n'importe quoi du tout. Et sachez-le, il n'est pas complètement défoncé.
Non, pas du tout, c'est vrai. Il est même tout à fait sobre à cette période-là de sa carrière.
Complètement, il est devenu végétarien, il a tout arrêté.
Et ce genre de morceau est structuré, parce qu'en fait, alors ok, il y a des moments où tous les musiciens jouent ensemble et chacun ce qui lui passe par la tête, mais régulièrement, la globalité des musiciens se calme pour que chacun puisse prendre un chorus, un solo, avec son instrument.
Oui, voilà, il y a quand même une espèce de trame générale, même si c'est de l'improvisation collective, oui. En fait, c'est un jeu d'écoute entre eux qui est énorme, c'est une sacrée performance, c'est un peu le fondement du free, c'est ça quand même.
Hein, non, carrément, et figurez-vous qu'il y a même des musiciens qui ont regretté après coup de ne pas avoir participé à cet enregistrement, dont le batteur Rachid Ali, à qui John Coltrane avait proposé de participer à l'enregistrement de ce disque, et il avait déjà un batteur à cette époque-là, donc Elvin Jones, et Rachid Ali a refusé en prétextant qu'il ne voulait absolument pas jouer avec Elvin Jones, que non, c'était des ennemis jurés, qu'il allait sûrement pas partager la batterie avec un autre batteur et encore moins Elvin Jones, et quelques années plus tard, il dira que s'il n'avait pas été aussi imbu de lui-même, il aurait pu participer quand même à cet enregistrement magistral.
Bah oui, il n'avait pas mesuré Elvin Jones quand même, c'est le batteur qui a marqué les batteurs de jazz, hein, c'est quand même il est génial,
extraordinaire, c'est clair,
extraordinaire, hein. Et n'empêche que Rachid Ali a fini par rentrer dans la formation.
Oui, tout à fait, ouais.
Et c'est Elvin Jones qui est parti en disant: je me demande pourquoi il m'a foutu ce type-là qui ne sait pas jouer de la batterie.
Oui, alors c'est vrai. Alors, ouais, autant Rachid Ali, en fait, regrettait de ne pas avoir participé à cet enregistrement, autant Elvin Jones, a priori, a regretté parce qu'il est parti pas longtemps après. Ouais, juste après le pianiste McCoy qui lui aussi a jeté l'éponge en disant: non, mais là, moi, je ne peux plus suivre Coltrane dans ses délires, c'est trop pour nous. Plus assez intimiste. Plus assez structuré.
Ouais, je crois que ça correspondait plus à leur vision, ils s'y retrouvaient plus en fait, hein, et ils ont préféré partir. Hein. Ouais. Donc ils se retrouvent avec Rachid Ali à la batterie.
Ouais, c'est ça.
Et Alice MacLeod, donc devenue Alice Coltrane.
Au piano, ouais.
Au piano.
Alors on va passer maintenant à un nouvel enregistrement de cette époque, Coulez ses mamas. Enregistrement sur lequel on a aussi une très très longue piste de 18 minutes à peu près. Ouais. Alors là, on n'est plus du tout dans on est toujours dans un petit côté free, mais pas dans ce côté vraiment gros bordel musical. Plus dans le côté recherche d'influence étrangère à celle des States, quoi. Notamment Amérique latine, Afrique. Il rencontre un musicien, Juno Lewis, dont on ne sait pas d'où il sort et dont on ne sait pas comment Coltrane a pu tomber sur ce mec-là. Mais donc Juno Lewis, percussionniste et chanteur sur Coulisse Mama.
Ouais. Juno Lewis, oui, c'est vrai qu'on voit très peu de prestations de Juno Lewis. On l'a cherché un peu, on ne trouve pas d'autres. Bon, on ne sait pas d'où il sort. En tout cas, c'est un album qui reflète bien la recherche spirituelle ou la recherche de diversité de John Coltrane. Il cherche beaucoup à retrouver les racines africaines, quand même. Hein, ça lui tient vraiment à cœur.
Oui, ça s'entend.
Comme on disait tout à l'heure, il a rencontré Ravi Shankar, qu'il adore. Et d'ailleurs, il appelle son second fils Ravi, c'est pas pour rien.
C'est vrai.
C'est en hommage à Ravi Shankar. Exact. Ouais. Et on sent dans cette musique, bah oui, qu'il y a plein d'influences très différentes, notamment Juno Lewis qui joue la conque.
Oui, ça, un coquillage, quoi. La conque qui est un coquillage. Hein. Mais de toute façon, tous les Sud-Aveyronnais savent très bien ce que c'est, puisque le village de Conque porte ce nom aussi par rapport au coquillage.
Ah, pas mal. Peut-être que Juno Lewis est de la bonne, hein, c'est ça?
Non. Ah, tu crois que Juno Lewis est de Conque? Ah ouais, peut-être, ouais. Sur les chemins de Compostelle, qui sait.
C'est pas si conque comme idée.
Bon, non, non, bah non. Allez, c'est
cool,
parti.
Coulisse Mama.
Coulisse Mama.
Thank you.
John Coltrane sur le morceau Coulé ses mama, en compagnie notamment de Juno Lewis aux percussions et au chant, et également à la conque, donc ce coquillage qui permet de, d'être utilisé comme un vent, hein, qui fait un son assez particulier.
Bon, alors, comme vous avez pu l'entendre, il y a du monde sur scène là, ça joue là, dans tous les sens, il y a un petit côté ethnique qui sort.
Ouais, complètement, ouais, c'est vrai, ouais.
On a changé d'ambiance par rapport au morceau précédent.
Oui, mais c'est ça, c'est vraiment, sur ce genre de morceau, c'est vraiment la création du, la recherche d'une création d'une ambiance qui est privilégiée.
Ouais, et d'un, et de ce passé africain quelque part qui lui tient à cœur. Hein.
Ouais, tout à fait, ouais. C'est clair. Alors, on va passer maintenant au dernier enregistrement de John Coltrane de son vivant. Hein, ouais. L'album Expression, qui est sorti de manière posthume, puisque Coltrane est décédé avant. C'est un album qui a été enregistré en plusieurs séances qui se sont étendues de février à mai 1967, qui est sorti en septembre 1967, donc après le décès de Coltrane, qui a eu lieu en juillet.
Tout à fait. 67. Ouais. Et alors bon, le dernier album qui enregistre clairement en tant qu'album pour être publié, comme il l'a enregistré. Sinon, il a enregistré énormément de plages et il y a un stock de bandes chez Impulse qui est énorme et beaucoup d'albums sont sortis après son décès.
Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, aussi sous l'impulsion de son épouse. Alice Coltrane.
Tout à fait. Et aussi du producteur, hein, Bob Till. Mais il y a aussi énormément d'albums pirates de Coltrane. Il y en a des quantités. Il y a même un petit bouquin qui est sorti pour répertorier les albums pirates.
Ouais, je pense pas que ça soit le seul jazzman pour qui c'est le cas.
C'est vrai que.
Mais oui, c'est clair. Il doit faire partie de ceux.
Ouais. Notamment les lives en
dont les bandes sont les plus recherchées. Ouais.
C'est clair. On continue avec Expression, donc.
Ouais, donc avec Expression, dont il a bien supervisé la production avant que le disque sorte, même s'il n'était plus là quand le disque est sorti. Et il avait demandé à son producteur de ne pas mettre de notes avec dans le disque, de notes explicatives, parce que selon lui, la musique devait parler d'elle-même. Voilà, ouais, donc ça donne bien l'idée que pour Coltrane, comme pour beaucoup d'autres musiciens, mais en tout cas c'est vraiment valable pour Coltrane, la musique en fait est un langage qui se suffit à lui-même, quoi. Pas besoin d'en rajouter des tonnes, on écoute et puis point, quoi. Tout est dit, quoi.
Ouais, il veut vraiment envoyer un message.
ouais, carrément. Et donc on vous a choisi le morceau Ogunde. Ouais, qui fait 3 minutes et quelques, hein, donc on va changer des 3 morceaux précédents qu'on a écoutés. Et non, voilà, quelque chose à rajouter. Ouais.
Alors c'est vrai que c'est pas très très fréquent les morceaux courts chez Coltrane, c'est l'époque où quand il joue sur scène, quand il joue en live, les morceaux durent un temps impossible, et quand on lui demande pourquoi ces morceaux durent aussi longtemps, il répond parce qu'au début on joue... ce qu'on a l'habitude de jouer. Après, on cherche un peu des choses. Et au bout d'un moment, quand on est à court, enfin, on fait de la musique.
Ouais, c'est pas mal.
C'est génial. Ogunde d'Expression. Thank you.
Vous êtes à l'écoute de Ça c'est Jazz sur Radio Saint-Afrique et nous sommes en septembre 1967. Le dernier album de Coltrane vient de sortir quelques mois après sa disparition.
Et ouais, John Coltrane qui est mort le 21 juillet 67. Peu de temps après la naissance de son dernier fils qui était né le 19 mars, Oran, il s'appelle, ou Oran.
Ouais. Oui, ça doit dire Oran, ouais.
Ouais. Donc il meurt peu de temps après, donc d'une infection du foie.
Oui, due à sa consommation excessive de drogue et à une période de sa vie, quoi.
Ouais, ouais, même s'il a fini sa vie végétarien, faire très attention à sa santé, le foie était déjà plus que bouffé.
Ouais, et puis il faut dire qu'il avait un rythme de vie assez frénétique aussi. Hein. Oui. C'est pas le mec, il se lève à 8h le matin, il enregistre un peu, il s'arrête à midi, il reprend l'après-midi, à 18h c'est fini, quoi. C'était,
il joue comme un dingue tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Ouais,
le
c'est
temps.
Ça, la musique est un sacerdoce, quoi. C'est ça occupe toute sa vie, quoi. Jour, nuit.
Complètement.
Entre les séances d'enregistrement en studio, les tournées. Les clubs où il joue, enfin voilà quoi, c'est un rythme de vie assez particulier, il faut bien l'imaginer aussi quoi.
Oui complètement, c'est complètement une vie complètement dingue où il voue sa vie à son saxophone quoi, complètement.
Ouais ouais, ouais puis aussi une vie sous tension quoi, tension avec les maisons de disques je pense, les producteurs, tension aussi raciale quelque part, hein. C'est pas facile pour des musiciens blacks à cette époque aux États-Unis de faire entendre leur voix et de faire entendre leur musique, hein. Il faut bien l'avoir à l'esprit aussi, hein.
Tout à fait, quelques temps avant là, un peu avant Kulu Semama, il a écrit un morceau Alabama, qui est un morceau en hommage à une fillette assassinée, une fillette black,
oui, c'est vrai. Exact.
Assassinée par les flics une fois de plus quoi. Voilà.
Mais heureusement pour tous les fans de jazz, après sa mort, il y a toute une série d'enregistrements qui sortent de manière posthume, dont notamment l'excellent Interstellar Space, qui est sorti en 1974, et qui est un album sur lequel il joue en duo avec uniquement un batteur, Rachid Ali. Duo sax-batterie, quoi, c'est tout.
Ouais, c'est particulier, hein. Ouais.
C'est free.
C'est free.
Encore
c'est free.
Un truc de fou, voilà. Quoi. Ouais. Et on va vous faire écouter une piste qui dure 5 minutes, qui est la plus courte de l'album. Après, avis aux amateurs, hein, si ça vous plaît vraiment, vous pouvez vous taper tout le disque. Mais bon, faut bien être dedans, quoi.
Faut t'accrocher, quand même. Alors, les disques, il y a son côté aussi un peu céleste, hein, les morceaux s'appellent Jupiter.
Oui, c'est vrai.
Qu'il y a encore
Mars, Mars j'en sais rien, moi, oui.
Des noms de planètes.
Ouais, des noms de planètes. Et on écoute Jupiter.
Ouais, on écoute Jupiter, vous allez, c'est bien barré, quand même. Il y a des étoiles, ouais.
Ah, carrément. Ouais. Allez, c'est parti.
Accrochez-vous. We'll be right back.
Vous êtes à l'écoute de Radio Saint-Afrique, enfin si vous êtes toujours là quoi.
Ça va, vous avez tenu le choc. On est dans John Coltrane, la dernière émission d'une série de trois. Et vous venez d'entendre Jupiter de l'album Interstellar Space.
Interprété par Coltrane et le batteur Rachid Ali.
Voilà, un duo. Donc un duo, tout l'album est sur ce niveau-là. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas écouter ça le matin, genre en se levant.
Ça peut être pas mal aussi, hein, pour bien se réveiller. Tu mets ça à fond, ça ouais. marche aussi. Hein, ouais, tu ouais, vois, ça remet les idées en place. Il
faut être seul, hein, c'est un coup. Est-ce que t'as demandé de faire un infarct, tes gosses gerbent le petit-déj.
Ah bah comme ça, c'est sûr qu'ils vont à l'école, au moins ils ne vont pas te faire chier toute la journée.
Ils se cassent dardard, c'est sûr. D'ailleurs, même Phil même pas, c'est même pas barré du studio, il a tenu le choc, c'est impressionnant.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il va peut-être nous saboter la fin de l'émission pour se venger.
Et pour finir, on aura encore plein d'autres choses à vous faire écouter sur John Coltrane, mais voilà, c'est un univers immense, vous l'avez compris. Hein. Et on va finir avec un disciple...
De Coltrane, ouais, un des nombreux disciples de Coltrane, hein, parce que je pense que vous avez bien compris aussi que l'influence de Coltrane a dépassé d'ailleurs les frontières du jazz, hein, et que c'est un musicien qui a influencé aussi des musiciens de rock, qui a aussi, je pense, apporté quelque chose à la musique classique, quelque part, ouais, à cette époque. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est un musicien universel, quoi, tout genre confondu.
Ouais, ouais. Moi je pense que même s'il n'y avait pas eu le free jazz, la musique actuelle ne serait pas où il en est, et s'il n'y avait pas eu John Coltrane, le saxophone ne serait pas là où il en est. Quoi. C'est vraiment des gens qui ont fait des avancées, qui ont osé des choses extraordinaires.
Sur... Ouais. Non, non, c'est clair. Et puis aussi le sens qu'il donne à sa musique, ça c'est important. Je pense que ça a beaucoup
influencé. C'est une musique qui a du fond. Je pense que c'est pour ça, c'est qu'il joue tellement avec son, avec ses tripes que voilà, ça passe quoi.
Ouais.
Et donc on va finir cette émission avec un morceau de John Coltrane interprété par Dave Liebman, c'est un spécialiste de John Coltrane. Il y a un album qui s'appelle Hommage à John Coltrane, qui est sorti en 87. Et il reprend que des thèmes de John Coltrane, et notamment, là, on va faire écouter Love.
Ouais, Love, qui a été enregistré par Coltrane, qui a été créé par Coltrane à l'époque de Love Supreme, donc qui est aussi un morceau dans ce truc spirituel, quoi, qui tenait vraiment à cœur à John Coltrane.
Ouais, tout à fait, ouais. Et du coup, c'est un album où Dave Liebman est au saxophone, piano, John McLeay, Eddie Gomez à la contrebasse, Adonis Baum à la percussion, et Caris Visantin au hautbois.
Mm.
Voilà. Donc...
On termine l'émission sur ça. Un grand, grand merci à Phil, à la technique qui a supporté tout ça.
Il est tout pâle.
Ouais, c'est clair. Et puis surtout, on vous dit à dans quelques mois, puisque c'est la dernière de la saison, et on se retrouve en septembre.
Oui, alors ouais. Je pense que Ça c'est Jazz, je suppose, va continuer en rediff un peu dans l'été, et on se retrouvera à la rentrée pour de nouvelles aventures jazzistiques.
Oui, carrément. Allez.
Merci à vous tous auditeurs, merci à vous tous qui mettez des commentaires de temps en temps, ça nous fait bien plaisir, c'est une bonne chose, allez-y, n'hésitez pas, et demandez des références si vous en voulez, on est dans le partage, on est prêt à vous faire entendre plein de choses.
Et puis n'hésitez pas à pousser la porte de la radio au cul de l'église.
Carrément. À bientôt, allez. On est parti avec Dave Liebman.
Ciao. Oh.